Quelqu'un qui passe sans arrêt du coq à l'âne est difficile à suivre et demande la plus grande attention. C'est le cas de Miché qui, dans ses prophéties, passe allègrement d'une catastrophe à une autre. Après avoir annoncé que dans un avenir à moyen terme, Judas serait investi par Babylone, il est revenu en arrière, plus près de son temps, et a vu les armées assyriennes qui envahissaient sa patrie. Mais cette invasion a propulsé son esprit prophétique jusqu'à la fin des temps où il a vu la dernière grande bataille, appelée Armageddon, juste avant que le Messie n'établisse son royaume 2000 ans. Maintenant, il regarde à nouveau dans l'avenir et s'attarde une fois encore sur l'invasion babylonienne parce que cette catastrophe aura un impact dévastateur sur le royaume de Juda. Je finis le chapitre 4 du livre de Miché. « Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. » Verset 14. En Israël, frapper quelqu'un à la joue était une grave insulte. Le maintenant qu'emploie Miché signale le nouveau changement de scène dont je viens de parler. Il s'agit de l'invasion des Babyloniens qui conduira à l'exil. Le prophète s'en était écarté pour porter ses regards sur l'invasion assyrienne et plus loin vers la bataille d'Armageddon de la fin des temps. Comme le mot pour « assiège » que Miché emploie est uniquement utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire le siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, il ne peut s'agir que de lui. Jérusalem encerclée est personnifiée. Miché la voit rassembler tous ses enfants en cohorte guerrière pour se défendre contre l'ennemi qui est assemblé à l'extérieur de ses murailles. Mais cela ne réussira pas car le siège des Babyloniens finira par la prise de la ville sainte, comme le prouve le sort ignominieux infligé au juge d'Israël qui est frappé sur la joue avec une verge. A priori, on pourrait penser qu'il s'agit du Christ, mais à y réfléchir, ce n'est guère possible. Il est vrai que Jésus a été frappé à la tête et au visage. Cependant, ici, il est question d'une attaque par les Babyloniens et Jésus n'a pas été torturé alors qu'une nation ennemie assiégeait Jérusalem. Ce juge qu'on a frappé sur la joue est Sédécias, le dernier roi de Juda que Nabuchodonosor a capturé et défiguré. À ce moment précis, on aurait pu croire que c'était la fin de la dynastie de David. Il est vrai que Sédécias n'était que l'oncle de Jéhoiakim, le dernier roi descendant direct de David à régner. Mais comme ce dernier moisissait dans une geôle à Babylone, l'avenir de Juda et donc de la dynastie de David semble sérieusement compromis. Comme Joseph et Marie devaient également être issus de la lignée de David, tout comme Jésus-Christ le Messie, le diable et ses cohortes ont dû penser qu'ils avaient réussi à déjouer le plan de salut de Dieu. Grosse méprise. Tout à coup, et selon une habitude maintenant bien rodée, la scène change brusquement parce que Miché reçoit une nouvelle vision. Dans le chapitre 4, le prophète a vu le retour de la royauté dans la famille de David et décrit Jérusalem glorifiée parce qu'elle est devenue le futur centre du royaume de Dieu. Mais il n'a pas expliqué comment ce rétablissement s'opérera. C'est ce qu'il va faire maintenant. Je commence à lire le chapitre 5 de Miché. « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, il sortira pour moi, celui qui règnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » Verset 1. C'est au moment le plus sombre de l'histoire de Juda que Miché donne l'une des prophéties les plus extraordinaires de l'Ancien Testament par sa précision. Bien que le royaume soit au fond du trou, frappé par une catastrophe sans précédent, un jour son roi divin viendra régner sur lui. Miché annonce ici le lieu de naissance de ce roi dont il a déjà parlé. Alors qu'Israël sera dans l'abaissement, de l'insignifiante bourgade de Bethléem sortira le roi qui donnera à Israël la paix et la victoire sur ses ennemis et qui fera de son peuple une source de bénédiction pour toutes les nations, selon la promesse de l'Éternel à l'ancêtre Abraham. L'apostrophe « Et toi, Bethléem Ephrata » est du même style que celle du chapitre précédent quand Michée a dit « Et toi, tour du troupeau, toi, citadelle de Sion, ta souveraineté d'antan te reviendra, la royauté que possédait Jérusalem. » Dans les deux cas, une ville est personnifiée et les expressions « ta souveraineté te reviendra » et « il sortira celui qui règnera sur Israël » sont similaires en hébreu car toutes deux parlent du retour du roi et il ne peut s'agir que du Messie, le descendant de David. Il naîtra de Bethléem Ephrata, une bourgade située à 8 km de Jérusalem. Ephrata ou Ephrat est un vieux mot pour Bethléem et sa région. Il signifie « la féconde » alors que Bethléem veut dire « maison du pain ». Les mots Bethléem Ephrata font tous deux référence à la grande fertilité de la contrée environnante. Elle était couverte autrefois de champs de blé, de vignes et de beaux vergers. Si Michée juxtapose les deux termes, ce n'est pas simplement pour distinguer cette ville d'une autre du même nom, Bethléem de Zabulon, car il aurait aussi pu utiliser l'expression ordinaire Bethléem de Juda. Michée choisit intentionnellement Ephrata afin de faire un pont jusqu'à l'époque des patriarches, quand Ephrata était le nom utilisé et pour donner ainsi plus d'ampleur et de solennité à son discours. Bethléem est dite la plus petite des villes de Juda. En effet, ce village était tellement insignifiant qu'il ne figure même pas dans la liste des possessions de la tribu de Juda qui se trouve dans les livres de Josué et de Néhémie. C'est pourtant là qu'est né David, le deuxième roi de tout Israël après Saül. Le verset de Michée est cité par Matthieu sous une forme un peu différente, mais dont le sens est le même. Matthieu dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » En affirmant que Bethléem n'est pas la plus petite des bourgades de Juda parce que le Messie y est né, Matthieu sous-entend justement qu'elle est parmi les plus petites par sa taille. La naissance humaine de Jésus est à Bethléem, mais sa véritable origine remonte à l'éternité. C'est ce que veulent dire les expressions « temps passé, jour ancien » ou d'autres similaires. Littéralement, le texte dit « son origine remonte à des jours d'un temps non mesurable ». Le prophète Ésaïe, contemporain de Michée, écrit « Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Un enfant est né mentionne l'humanité de Jésus, tandis que « un fils nous est donné » fait référence à sa divinité. Jusqu'à la naissance de Jésus, les Juifs ont toujours reconnu que le Messie naîtrait à Bethléem. Matthieu rapporte que le roi Hérode convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. » Et ils ont cité la prophétie de Michée. Selon l'apôtre Jean, certaines gens qui écoutaient Jésus et croyaient qu'il pouvait être le Messie étaient confus à son sujet car il avait vécu à Nazareth. L'un d'entre eux a fait remarquer que, d'après l'Écriture, le Messie sera un descendant de David et il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu. Les rabbins n'ont commencé à contester que le Messie naîtrait à Bethléem qu'après la venue de Jésus et dans l'intention évidente de lui enlever la dignité messianique qu'il tirait de sa naissance à Bethléem. De nos jours, ils disent que la prophétie de Michée annonce simplement que le Messie sera dans la lignée de David. Mais alors pourquoi Michée mentionnerait-il Bethléem, puisque pendant deux siècles, les descendants du roi David ont vécu à Jérusalem? Et pourquoi Michée insisterait-il sur la petitesse de Bethléem, si ce n'était pas là que devait naître le Messie? Les rabbins sont évidemment de mauvaise foi. Parce que Jésus est né à Bethléem, ce village est élevé au-dessus de toutes les villes, tout comme la petite colline sur laquelle est bâtie Jérusalem est élevée au-dessus des montagnes, ce que Michée a déclaré au chapitre précédent. La naissance de Jésus à Bethléem n'a évidemment pas été un hasard, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Cependant, il se sert des hommes pour accomplir ses objectifs. Dans ce cas particulier, il s'est arrangé pour que le César de service ait besoin d'argent et lève des impôts. Pour que le filet enserre le plus de personnes possible, chacun devait se rendre dans son village de naissance. Je lis le passage. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Si Jésus est né à Bethléem, dans le village de David, c'est également pour bien marquer la continuité entre le roi David et le Messie qui est le second David. Ce dernier est appelé à rétablir à Jérusalem la glorieuse domination de son ancêtre. Le prophète Ésaïe souligne cette continuité quand il écrit que le Messie, tel un rameau, poussera sur le tronc d'Isaïe. Or, Isaïe, à ne pas confondre avec le prophète Ésaïe, est le père du roi David. Cette intention de Michée d'établir un rapprochement entre le Messie et son précurseur historique se remarque jusque dans les moindres détails. En effet, en parlant de Bethléem, Dieu dit « De toi, il sortira pour moi, celui qui règnera sur Israël ». Or, ce « pour moi » apparaît deux fois dans la scène où l'Éternel ordonne au juge Samuel d'aller dans la famille d'Isaïe pour oindre l'un de ses fils pour roi. Dieu dit littéralement à Samuel, « Je me suis choisi pour roi un de ses frères. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Ces mots « sortira pour moi » signifient que la venue du Messie aura pour but d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus lui-même a dit qu'il était sorti de son Père. Je le cite. « C'est vrai, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. » Aux pharisiens, Jésus a déclaré, « Vraiment, je vous l'assure, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » De toute éternité, Jésus est. Quand il s'est révélé à l'apôtre Jean, il lui a dit, « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Au début de son évangile, Jean écrit, « Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » L'apôtre Paul confirme ses paroles quand il dit du Christ, « C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même avant toute chose. » Et tout subsiste en lui. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Je continue le texte de Michée. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Verset 2. Celle qui doit enfanter est Marie, la mère de Jésus, et la jeune fille prophétisée par Ésaïe qui dit « Le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel. » Ce rapprochement prophétique entre Michée et Ésaïe concernant la mère du Messie est tout à fait extraordinaire. Au niveau symbolique, Marie représente aussi le peuple d'Israël en proie à la souffrance jusqu'à ce qu'il donne naissance au Messie, non pas au petit Jésus dans la crèche, mais au Seigneur Jésus, glorifié, qui à la fin des temps viendra délivrer son peuple après les 7 années de tribulation. Michée rappelle une fois encore que le jugement doit précéder le salut. Tant que le Messie ne sera pas venu, le peuple restera dans un état d'humiliation, de petitesse et de mépris, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais cette souffrance que Michée compare aux douleurs de l'enfantement aboutira à la seconde venue glorieuse du Messie. Le salut ultime d'Israël en tant que nation et du monde entier en tant qu'individu a commencé dans le village insignifiant de Bethléem et non pas à Jérusalem. Les circonstances modestes de la naissance du Messie présupposent que la dynastie de David n'a plus le trône et a été humiliée par ses ennemis. C'est effectivement ce qui est arrivé avec l'invasion babylonienne et l'exil de Juda. De retour dans leur pays, les Juifs ont reconstruit leur capitale et le temple qui fut embelli par Hérode. Mais les Romains ont tout rasé et depuis, au lieu du temple de l'Éternel sur le mont Sion, on y trouve la mosquée d'Omar, aussi appelée Dôme du Rocher. Le temps de l'Église, entre la naissance de Jésus à Bethléem et son retour dans les airs pour chercher les croyants, est un interlude qui n'est pas pris en compte par l'esprit prophétique. Michée réunit en 2 versets les 2 apparitions du Messie, une première fois en tant que Jésus sauveur, et la deuxième fois, il nous présente le Seigneur de gloire. Ésaïe fait de même à 2 reprises. Je le cite. Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, père à jamais, et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent, et pour l'éternité. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. Fin de citation. Dans sa prophétie, Michée dit que dans l'avenir, le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Il s'agit de ceux des 10 tribus du Nord qui retourneront dans le giron de Juda, comme elle l'avait déjà fait du temps de David. Je lis ce passage. Des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent « Nous voici ». Nous sommes de ta race et de ton sang. Michée décrit le Messie comme un nouveau David qui réalise l'unité du peuple de Dieu autour de sa personne. Un autre prophète écrit « Alors les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis et se choisiront un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil. Après cela, ils reviendront à l'Éternel leur Dieu » et se tourneront vers lui, ainsi que vers David, leur roi. Comme il n'y a pas eu de retour d'exil pour les 10 tribus, les Israélites du Nord, que Michée voit rejoindre ceux du Sud, sont, d'une part, ceux qui se sont réfugiés en Juda lors de l'invasion de leur pays par les Assyriens, et d'autre part, ceux des 10 tribus qui, en exil, ont gardé leur identité et se sont joints aux Israélites de Juda captifs à Babylone. En effet, l'Empire assyrien a été intégré à celui de Babylone. Donc, tous les Israélites du Nord comme du Sud se trouvaient au même endroit, bien que éparpillés sur de grandes distances. Mais on peut concevoir que dans sa souveraineté, Dieu a fait en sorte que des colonies d'Israélites du Nord, comme du Sud, se retrouvent et s'associent. Selon Jérémie, c'est ce qui arrivera à la fin des temps quand tous les Juifs reviendront de la diaspora en terre d'Israël. Je lis le passage. En ce temps-là, la communauté de Juda rejoindra celle d'Israël et du pays du Nord. Elles reviendront ensemble vers le pays que j'ai donné en patrimoine à vos ancêtres. Fin de citation. Il n'est pas exclu que cette prophétie puisse aussi concerner le retour de l'exil babylonien, et on peut être quasi certain que parmi ceux qui sont rentrés au pays, il y avait des représentants des 10 tribus, même s'ils n'ont pas pu prouver qu'ils étaient israélites. Comme la plupart des prophètes ne sont pas ancrés dans une seule époque, il faut donner à l'esprit prophétique la liberté de s'exprimer simultanément sur deux, voire même plusieurs périodes historiques.